Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mais tu serais pas Bastien Vivès par hasard?
Eh bah, bien vu.
Ah bah super, ça m'arrange parce qu'on va parler aujourd'hui de ta dernière BD donc, qui s'appelle Une Sœur, qui sort le 3 mai 2017 dans toutes les librairies. Mmh. Alors Une Sœur, ça raconte l'histoire d'Antoine qui a 13 ans, qui part en vacances avec ses parents dans une maison de vacances tout simplement. Et là-bas, il rencontre Hélène qui a 16 ans. Mmh. Et entre eux va se nouer une relation assez particulière. Comment elle t'est venue l'idée de cette bande dessinée?
Bah à la base, je voulais raconter quelque chose sur la fraternité. C'est vraiment le grand thème de cette BD, c'est pour ça que ça s'appelle Une Sœur. Et je voulais aussi montrer que, en gros, bah, la relation particulière qu'Antoine et Hélène vont avoir est simplement, comment dire, orchestrée par le fait que l'une aurait rêvé d'avoir un petit frère, lui, d'une grande sœur. Et ils se sentent un petit peu tous les deux seuls et ils vont avoir cette relation alors qu'ils ne sont pas du tout frères et sœurs. Mais ils vont avoir cette relation vraiment très particulière, une espèce de parenthèse enchantée qui dure une semaine. Et voilà.
Et pour nourrir cette histoire, est-ce que c'est donc une histoire personnelle? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu dans un film? Enfin, avec quelle matière tu t'es nourri pour cette histoire?
Je pense avant tout du fantasme, comme pas mal de fois dans mes bouquins. Donc c'est avant tout du fantasme. J'aurais bien aimé avoir une grande sœur, j'ai un petit frère. Et donc très vite en fait on commence à placer des personnages qui à la base peuvent nous ressembler sur des traits de caractère, même par rapport à du physique, mais très vite en fait quand on commence à basculer dans le fantasme, bah, en fait on se détache complètement des personnages. Donc c'est sûr que peut-être au début le fait qu'on ait un gamin qui dessine, qui est 13 ans, alors que je ressemblais pas du tout physiquement quand j'étais plus petit, mais ça aide un petit peu à rentrer dans l'histoire en tant qu'auteur. Puis après, une fois qu'on bascule dans le fantasme, une fois que la fille en fait arrive, ça y est, on commence à sortir un petit peu de l'histoire. Mais on est quand même attaché au personnage à la base.
Donc, dans cette BD, tu as le thème donc de l'émoi. Voilà, il va se passer un petit déclic dans la tête de notre ami Antoine. C'est pour moi un thème qui est très adolescent, qui est très teen, le côté. Amour d'été, un petit peu. Est-ce que tu as eu peur de sombrer dans des clichés ou dans ce genre de choses par rapport à cette thématique?
Non, après, c'est toujours intéressant. Moi, je sais que j'ai un travail qui est quand même... Je parle souvent des clichés parce que j'aime bien, moi, j'aime bien le style, je sais pas comment dire. J'aime bien l'image du père, j'aime bien l'image de... Je suis très famille, travail, famille, patrie, enfin, dans une espèce de connerie comme ça. Mais en fait, j'aime bien ces images-là. Les prendre et puis après les mettre à ma sauce, mais en gros non, je pensais pas forcément être cliché. Pour moi la chose la plus importante, c'était qu'on soit dans un cadre assez bienveillant, qu'on soit dans une ambiance assez agréable pour pouvoir montrer des choses qui aujourd'hui sont difficiles à montrer, que ce soit en bande dessinée ou même pire encore au cinéma, tout ça, qui est que bah voilà, une gamine de 16 ans a des relations un peu sexuelles avec un gamin de 13 ans. Donc bon, c'est dit comme ça, ça peut paraître bizarre, mais si c'est assez bien amené dans le livre, on peut carrément se dire ah, c'est cool quand même, c'est chouette. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir ce sentiment quand on finit le livre, et on se dit ah, mais c'est chouette quand même, putain, c'est con, pourquoi est-ce qu'on fait pas ça tous les jours?
Et justement, à ton avis, pourquoi c'est quelque chose de difficile à montrer?
Non, mais parce que je pense que aujourd'hui c'est quelque chose de difficile à montrer parce que si on le rattache à la réalité, évidemment c'est compliqué. Parce que évidemment on se dit bah 13 ans c'est un peu jeune, puis la manière dont ça se passe, il y a plein de choses, plein de petits codes sociétaux qui font qu'aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Ça a été beaucoup moins, je pense, dans les années 70. Et aujourd'hui, il y a des choses qu'on montre qui étaient impensables dans les années 70. Donc bref, on devient un petit peu plus... aujourd'hui, sur la question du sexe, on devient un peu plus comme les Américains, un peu plus espèce de... On est très bien pensant, on est caché ce téton, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et moi, ça m'intéressait de garder ce côté un peu cliché de la relation adolescente où les gamins vont commencer à se tripoter. Et puis à un moment donné, faire un bon gros plan sur la chatte ou sur les nichons ou sur la bite. Et puis voilà, c'est ça qui est important de pas passer à côté, quoi. Parce que quand on est adolescent, évidemment, la première fois que j'ai vu une chatte, putain, mais j'ai l'image gravée dans ma tête. Et donc, je voulais garder ce truc-là, genre, paf, le gros plan. Et c'était important, ouais.
Est-ce que tu penses que t'as plus de liberté avec la BD, justement, que si réalisateur de film
Évidemment. Ça, c'est vraiment le gros avantage. Bah, vu qu'on génère moins d'argent, on n'a pas de problème humain. Enfin, moi, je suis tout seul sur mon bouquin. Il y a aucun souci avec ça. Par contre, le souci, c'est quand je dis qu'on commence à devenir un peu bien pensant et tout ça. Par exemple, moi, j'ai fait un bouquin porno qui s'appelle Les Melons de la Colère. Où là-dedans, il y a carrément des relations sexuelles avec un gamin de 8 ans, avec sa sœur et tout machin. Donc et ce truc-là était ce livre. Il y avait un éditeur canadien qui voulait le publier et il ne l'a pas fait, pas à cause de la censure, parce qu'il n'avait pas le droit. C'était illégal, en fait. Il risquait d'aller en prison. Donc tu te dis, c'est quand même bizarre, ça reste un bouquin. Et non, parce qu'il y a une loi aux États-Unis qui est passée qui dit qu'un dessin, entre guillemets, à caractère pédophile, et une image, une photo pédophile, a exactement la même valeur aux yeux de la loi, ce qui est complètement aberrant, parce que il y a un gamin, un vrai gamin qui a été utilisé, et dans l'autre, ça reste un dessin, donc j'ai envie de dessiner ce que je veux, je fais un gamin qui se fait enculer par un lapin, n'importe quoi, en fait, je peux le faire, et personne n'a été... Et ça, c'est compliqué, donc ce truc-là arrive aux États-Unis, ce qui fait que en gros, on se récupère tout ce qui se passe aux États-Unis, mais avec 5 ans de décalage, ce qui fait que je serais pas étonné d'ici quelques temps que ça devienne de plus en plus compliqué de dessiner ce genre de choses, quoi. Alors que, putain, c'est heureusement qu'il y a des exutoires là-dedans, quoi. Sinon, on serait chiant, enfin, on raconterait quoi, on continuerait à faire des BD Wikipédia, ou... Non, mais tu vois... raconter la biographie d'un énième connard que tout le monde s'en fout. Bref, c'était pas très intéressant, donc au moins...
Du coup, par rapport à ce projet, est-ce que par rapport au travail éditorial, t'as eu toutes les libertés, ou est-ce que t'as eu à défendre certaines choses ?
Non, en gros, j'ai fait tout le bouquin avant de le montrer. En fait, j'ai fait avec mon éditeur Didier Borg, qui m'a toujours suivi à Casterman. À ce moment-là, il partait de Casterman, donc j'ai continué à le voir un petit peu. J'ai montré à la moitié du livre et à la fin du livre, et puis en fait on a pu voir le livre ensemble, et puis une fois que le livre était fini, je l'ai présenté à Casterman, parce que c'est un livre que j'ai fait très rapidement et il fallait que je garde cette énergie là et donc une fois que le livre était fini et qu'on le lit dans l'ensemble, le livre est passé tranquillement, et je trouve que c'est une bonne manière. C'est quand même bien d'avoir le regard d'un éditeur quand même qui voit le livre en train de se faire, qui m'a conseillé sur certaines scènes et tout ça, c'était intéressant. Mais sinon, je pense que c'est le genre de bouquin là qui fait très très rapidement. Donc,
revenons-en un petit peu à nos personnages. Est-ce que l'âge de 13 ans et 16 ans, pour toi, c'était une évidence ? Pourquoi ces personnages ont cet âge-là ?
En fait, moi, c'est très important parce que le gamin est 13 ans. Ce qui est important, c'est que le garçon est 13 ans et que la fille est 16 ans. Si j'avais mis dans l'autre sens, si j'avais mis une gamine de 13 ans avec un gamin de 16 ans, ça aurait été plus compliqué, parce que là, tout de suite, on serait tombé dans des sentiments plus amoureux, plus communs. Enfin, voilà, c'était une gamine un peu plus jeune avec un mec qui est déjà homme, avec une fille qui est femme-enfant. Enfin, tout ce truc-là, ce qui fait que c'est ce qu'on a tous les jours, quoi. Tous les jours, ça. Alors que là, le rapport est différent, parce que, en gros, s'il y a une bagarre entre les deux, je pense que c'est Hélène qui gagne. Donc, en gros, il pouvait pas y avoir de violence entre les deux. Et c'est ça qui m'intéressait, parce que, entre frères et sœurs, il y a cette idée que, même si ça se chamaille et tout ça, c'est pas violent. On est pareil d'une certaine manière, donc il y a pas vraiment de violence. Et ça, c'était important, ce qui fait que c'est pour ça qu'ils vont pouvoir s'adonner comme ça à la découverte des corps et tout le bordel, parce que il y a pas la violence, parce qu'ils se sentent bien, et en plus il y a même pas de désir, il y a pas de désir sexuel et tout ça, parce que lui encore il découvre une fille comme ça, mais lui quand il voit un sein, c'est pas genre waouh, elle a des seins trop beaux, c'est putain, c'est un sein, quoi. Point, ça s'arrête là, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant.
Et est-ce que tu dirais que du coup, culturellement, c'est vrai qu'on est habitué plutôt au garçon plus vieux, à la fille plus jeune. Est-ce que du coup, pour toi, d'avoir fait cette inversion, c'est plus réaliste ? C'est des choses plus communes ?
Je sais pas, il faut voir, c'est très en marche. Enfin voilà, par exemple, non, parce que je veux pas Macron, il se tape sa nana qui est beaucoup plus vieille et tout. Il y a toujours eu hein, des mecs un peu plus jeunes qui se tapent des meufs un peu plus vieilles. Mais je pense que c'est intéressant. Je me demande si ça pourrait vraiment se passer dans la vraie vie. C'est quand même parce qu'en gros, quand t'as 3 ans de différence, quand t'es adolescent, à part c'est une gamine qui est vraiment formée à 14 ans, qui ressemble vraiment à une nana avec un mec qui en a 18, bref, c'est compliqué. Mais pour les garçons, c'est dur. Je vois pas comment une nana de 16 ans pourrait triper sur un mec de 13. À part si vraiment il incarne une espèce de comment dire, des espèces de naïveté, de côté un peu... vraiment le jeune, en fait, je sais qu'il y a toujours ce plaisir de déniaiser un peu qui est toujours agréable.
Il y a un côté très Pygmalion en fait d'Hélène.
Ah oui, il y a ce truc là, genre elle va le déniaiser, mais c'est un peu comme c'est pour ça que c'est un peu le côté comme le petit frère, mais tu vas lui faire un petit peu toutes les conneries. Ça, je pense que c'est quelque chose qui plaît un petit peu, qui pourrait être un début de fantasme un petit peu pour les filles. Donc essayer d'avoir un petit peu ce... Mais ce qui est important, c'est qu'à aucun moment dans le bouquin, peut-être à la fin, parce que c'est à la fin où il y a vraiment la découverte vraiment des grands sentiments et tout, mais il y a cette... sexualisé, vraiment, quoi. C'est vraiment qu'il n'y a pas vraiment de désir, enfin, il n'y a pas vraiment de désir pour l'un et pour l'autre, quoi. C'est juste que, tiens, regarde, je vais te montrer un truc, et puis il se montre, quoi.
Ce que j'ai trouvé intéressant dans ta BD, c'est que, donc, Antoine, on le voit grandir, mais... Ça prend quand même pas mal de pages. Il continue de dessiner ses petits Pokémon, ouais, même quand il fait des trucs avec Hélène.
Au début, il commence à dessiner des Pokémon, et puis dès qu'il est avec elle, la grande œuvre qu'il va commencer à voir, c'est de devoir faire son portrait. Et il est là, et il n'arrête pas, il n'y arrive pas. C'est normal, le gamin de 13 ans, il n'y arrivera jamais à faire le portrait. C'est trop dur au niveau du dessin, c'est très très compliqué. Et quand on prend le dessin d'une manière un peu sérieuse, et c'est très très dur d'arriver à avoir tous les détails d'un visage et tout ça. Et lui, il est là, il essaye. Peut-être qu'à la fin, il a réussi quand il lui donne cette espèce de lettre. Mais en tout cas, il va prendre un petit peu le temps, il va se détacher au fur et à mesure de son petit frère. Mais, comment dire, c'est vrai que ça va quand même assez vite, hein, en une semaine.
Et est-ce que justement, donc, le personnage de Titi, qui est le petit frère, est-ce que justement, c'est pas un personnage qui le maintient un petit peu dans l'enfance? Est-ce que c'est pas une manière pour toi de ralentir
D'une, pour moi, c'est le Titi, même il a ce rôle, c'est presque l'arbitre un petit peu de la partie. C'est le gamin qui rappelle à chaque fois, et s'il n'était pas là, qui rappelle à chaque fois qu'ils sont une fratrie, qui sont une petite bande, qui sont là pour s'amuser, que c'est du jeu en permanence, qu'on est des enfants, et il est là toujours pour... D'un côté, il y a le monde des adultes, il y a Titi, et eux, ils sont pile entre les deux, quoi. Et c'est toujours important, c'est pour ça que Titi, c'est un personnage, même s'il a son caractère un petit peu, qui peut être parfois un peu chiant, ou il a un petit... Mais c'est toujours agréable, c'est rigolo d'être avec lui, c'est très plaisant, et c'est un personnage vraiment que je pense qui, grâce à lui, qui permet d'avoir cette bienveillance, côté vraiment agréable.
Parce que du coup, tout ce qui est émoi, c'est moins dans l'insouciance.
Comment ça?
En fait, Titi, c'est un peu, voilà, c'est l'insouciance, c'est celui qui ramène le côté coucou, on est là pour rigoler, c'est l'été. Est-ce que ça voudrait dire que du coup, quand nos deux personnages ils s'éloignent, on est moins dans cette légèreté?
Sûrement, il y a un truc qui me plaît beaucoup, moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup chez les filles, c'est vraiment l'œil de la connerie. C'est un œil où en fait tu comprends que c'est pas l'œil fou. L'œil fou, il fait flipper tout le monde, et ça, c'est vraiment quand c'est pas très, ça fait très très peur. Mais l'œil de la connerie, c'est un œil où en fait tu es en train de dire quelque chose et tu vois que t'as la personne en face qui vient de comprendre ce que t'as dit ou qui vient et qui dit ah ok, d'accord, il y a une connerie à faire et si tu veux, on y va, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, et c'est quelque chose que Hélène a. Elle a toujours cet œil où à un moment même quand ils vont faire du vélo, et que lui, à un moment, il lui prend par la taille, et puis il va lui prendre un petit peu les seins, elle fait « Ah, ok, vas-y, on joue à ça. » Et puis, on sent que ça amène et qu'il y a du répondant. Et ça, il n'y a rien de plus agréable. C'est ce qui fait que, pourquoi est-ce que ça, c'est, quand je parle de séduction, c'est que la séduction, c'est ça. C'est de rebondir sur quelque chose. C'est pas juste de faire des bons mots et de montrer à quel point t'es marrant ou t'es pas marrant. C'est de montrer que, genre... Ah tiens, tu proposes ça, vas-y, moi je te propose ça, et puis en fait, et tu fais le ping-pong, et si à un moment, Et ça, c'est vraiment le jeu. Et ils sont dedans. Et l'œil de la connerie, c'est assez agréable. C'est assez agréable.
Je reviens quand tu parlais du projet d'Antoine de dessiner le portrait d'Hélène. Est-ce que c'est pas un petit peu métaphorique? Est-ce que, justement, il a du mal à la dessiner? Est-ce que, du coup, il a du mal à la cerner? Enfin, est-ce qu'il y a...
Ah oui, même, il a même, je pense, du mal à la posséder, tout simplement, parce que c'est quelque chose aussi qui... Moi, c'est dans mon travail, pourquoi est-ce que je dessine des filles tout le temps? Pourquoi est-ce que j'ai toujours commencé à dessiner des filles? Parce que, vu que je pouvais pas les avoir, vu que je pouvais pas baiser avec elles, eh ben, il fallait au moins que je les dessine, quoi. Donc, c'était une manière de... Quand je voyais une nana qui était très jolie, qui était en face de moi dans un train, n'importe quoi, ben... Je la dessinais ou j'essayais de m'en rappeler de la dessiner. Une fois que j'avais dessiné, c'est bon, je l'avais possédé. Et puis j'ai toujours dessiné. Toutes mes héroïnes sont des filles que j'ai connues, qui sont inspirées de physiquement. Donc, et puis même, j'ai toujours aimé ça. Donc je pense que très vite, quand pour moi, ça paraissait très logique qu'il essaye de la dessiner parce que. Et au moins, c'est une manière d'évacuer parce que quand tu commences à penser à quelqu'un, tu y penses tout le temps. Donc. Si t'as pas ça pour évacuer, c'est dur. Je sais pas comment font les gens qui ne dessinent pas, mais c'est dur d'évacuer les choses autrement. Peut-être que tu frappes des gens, peut-être que peut-être que tu fais autre chose, peut-être que tu te détruis.
Comment faites-vous?
Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je dessine. Ouais.
Alors, dans cette BD, enfin, moi, personnellement, elle m'a beaucoup torturé l'esprit, parce que par moments, j'avais envie d'être dérangée, mais en même temps, je me disais... Mais pourquoi je suis dérangée? Parce que il y a quand même ce côté fraternel, ça s'appelle une sœur, et ils font des choses qui ne sont pas du tout de l'ordre du fraternel. Pourquoi t'as eu envie d'installer ce petit, peut-être pas malaise, un peu fort comme mot, mais
non, mais il faut, c'est comment dire, c'est pas forcément une histoire de malaise, c'est vraiment une histoire de fantasme, et c'est quelque chose qui est très important, et c'est même quelque chose qui est aussi au cœur de mon travail de tout le temps, c'est vraiment d'arriver à que les gens arrivent à différencier, enfin même j'essaie d'avoir ce propos où en fait il y a la réalité à l'escalier, et puis il y a le fantasme. Et donc voilà, quand par exemple je vais montrer ça à un gamin qui est en train de baiser avec une nana, et même que dans ma BD, je vais montrer que c'est un moment agréable et c'est chouette. Et ben, je suis pas là en train de dire il faut le faire dans la vraie vie ou ces trucs. C'est regardez, parfois c'est agréable et c'est chouette de penser à des trucs un peu niqués, de vraiment de se dire que. Et puis même si t'as envie de quand tu baises avec quelqu'un et que tu vas penser à ça. C'est aussi agréable, c'est quelque chose qui excite. Pour être excité, je pense, pour être excité, pour être séduit, pour être machin, il faut qu'il y ait quelque chose qui, à un moment donné, nous transforme la réalité, nous fasse échapper de la réalité. Qu'est-ce qui fait que quand on est amoureux, c'est un des sentiments les plus agréables, parce qu'on a l'impression que ce qu'on vit est complètement irréel, qu'on est au cinéma, qu'on est plus rattaché du tout à la réalité, c'est hyper agréable. Et ça fait partie du fantasme, ça fait partie de plein de choses, ça fait partie de... Et donc, dans mon travail, si je peux à chaque fois mettre des choses, je dis genre waouh putain c'est vraiment bizarre ou c'est... Et ben ça permet de s'évader un petit peu au moins pendant la lecture du bouquin pendant une heure on s'est un petit peu échappé de la réalité et c'est un moment je pense agréable mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont dérangeantes. Ouais.
J'ai l'impression que tu jongles beaucoup entre donc le fantasme assez personnel. Il y a aussi le côté où tu racontes une histoire et j'ai l'impression aussi que tu cherches à tenir un propos plus universel envers les gens. Enfin, j'ai l'impression que tu jongles un peu entre ces trois directions.
Bah en fait, ce qui est agréable, c'est de mettre quelqu'un, enfin le lecteur, de le mettre dans des bonnes conditions, des conditions agréables. Il est en train de lire un livre. Si on est en vacances, il fait beau, les filles sont jolies, les garçons sont mignons, et on est dans un cadre hyper agréable. Et tout d'un coup, tu vas dire, regarde un peu ce truc-là, c'est un peu niqué là, tu vois, comme ça. Et puis il fait, c'est un peu niqué, mais c'est très agréable et tout. Et puis il y a vraiment ce truc où tu le laisses aller. Si jamais tu lui montres directement, genre première page, un gamin de 13 ans en train de se faire enculer par je sais pas quoi, ben, tu dis non, en fait t'as tout cassé, enfin ou alors c'était ton propos et ça te fait une grande peinture et t'affiches ça je sais pas où, mais là tout d'un coup il faut créer une espèce de cocon, un endroit où on est bien pour surprendre la personne, se dire ah putain je commence à penser ça, et qu'est-ce qui fait que t'as des films, t'as des grands chefs-d'œuvre et tout ça, c'est parce que à un moment donné on nous a présenté des personnages. Ces personnages, au début du film, on les aime, on les apprécie, puis ils vont commencer à faire des choses un petit peu bizarres, où on va commencer à se poser des questions en disant « Attends, est-ce que je valide ou pas ce que fait ce personnage? Est-ce que ça me plaît? Et on se pose des questions sur nous, et on est en train de voir un film, et on s'attache au film, et il y a des choses, on se dit, putain, j'aurais jamais pensé ça. Et ben, c'est ça qui fait la richesse d'un film, ou la richesse d'une histoire. Là, et là dans la BD, j'essaie de faire un peu la même chose, d'amener des gens qui parfois ont peut-être des avis peut-être un peu arrêtés sur certaines choses, sur cette notion de fantasme ou pas, et puis ben, de leur montrer ça, puis ils disent « Ah, mais en fait, je passe un chouette moment, c'est agréable. »
T'écris pour que les gens ouvrent un petit peu leur esprit ?
Bah, je sais pas si c'est pour ouvrir les esprits, mais en tout cas, moi déjà, j'écris à la base pour moi, parce que moi déjà, l'inceste, moi, ça m'excite à mort. Je trouve ça... Non, mais pas l'inceste dans la vraie vie, l'inceste raconté, je trouve ça génial. Même tous ces trucs-là, je trouve ça fait toujours des histoires incroyables, quoi. Quand machin a couché avec machin, et que... En fait, quand tu transgresses, quand t'es dans une histoire, quand dès qu'on transgresse quelque chose, qu'on fait quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, eh ben, c'est déjà agréable à lire. Parce que tu dis, ah, ça y est, putain, je suis en train de transgresser quelque chose. Même un personnage va dire un gros mot. Et bien, tu dis, ah, putain, c'est trop chouette, il a dit un gros mot, et alors qu'on n'a pas le droit de le dire. Et dès que t'es gamin et tu commences à comprendre ça, c'est trop bien.
En fait, t'écris plus pour que... C'est une sorte de catharsis, quoi. C'est pour que les gens, ils voient enfin ce qu'ils ont envie de voir et ce qu'ils osent pas s'avouer.
Bah oui, après, c'est... D'abord, je le fais pour moi, et après, je vais... Parce que vu que je peux pas faire d'inceste dans la vraie vie, et que je n'ai pas de grande sœur pour pouvoir faire ça, et ben je fais ça dans mes livres. Et c'est important. Parce qu'il faut évacuer ça. Mais sinon, je veux dire, on devient fou. En fait, sinon, après, on devient fou, et après, on a de... Normalement... Non, mais c'est vrai.
Donc finalement, je pense que dans tous les hôpitaux psychiatriques, il faut que les gens écrivent, en fait. C'est ça, mais c'est la thérapie.
Évidemment, je pense que... Mais c'est pour ça qu'il y a énormément de thérapie qui passe par le dessin, par l'écriture, par toutes ces choses-là. C'est hyper important. Mais je dis bien, c'est pour ça qu'il faut toujours un peu différencier les deux. Et c'est toujours le grand débat. C'est toujours ce même grand débat qui est avec la censure, avec tout ça. C'est comment est-ce que tu...
C'est un truc qui te chagrine, j'ai l'impression, la censure. C'est un truc qui te chagrine, la censure.
Parce que c'est quelque chose qui est dans mon travail. Donc, je suis directement. Il y a ça, puis il y a plein de bouquins que j'adore et qu'on ne peut pas forcément lire, qui sont très compliqués, mais ça, je trouve ça toujours un peu dommage.
Par rapport à une sœur, en fait, t'as des personnages qui sont adolescents, ce qui fait que ton lectorat va quand même sans doute être très adolescent. Et à ton avis, comment ils vont recevoir cette BD?
Ça aussi, je me suis quand même posé la question de savoir, parce que c'est quand même compliqué. Moi, j'ai 33 ans, donc j'ai la vision d'un mec de 33 ans, et même si j'essaye de me replacer dans l'enfance, c'est... C'est toujours un peu évident, c'est pas forcément évident. Je sais pas, moi je pars du principe que même s'ils comprennent pas, c'est pas très grave en fait, parce que c'est important de voir des choses et même on les a pas compris, on les a pas comprises, bah, au moins on les a dans la tête et ça nous a titillés. Je sais pas, peut-être que. Moi, je me souviens, par exemple, quand je dessinais dans mes BD, parfois, des meufs à poil ou des scènes de cul. Et puis, t'as des gamins qui font « Ah, monsieur, faut pas dessiner ça, hein. Ah, monsieur, c'est... » Et tu dis... Enfin, c'est rigolo, parce que c'est ce que leur dit leurs parents. Mais quand même, un gamin, chaque fois que tu lui montres un bouquin, bah, quand il y a la scène de cul, bah, il reste dessus et il ferme le bouquin, il regarde, il rouvre le truc, et c'est normal, et ça fait partie du... Je pense qu'au moins, les gamins... Même s'ils comprennent pas forcément toute la subtilité de l'histoire, ils apprécieront les scènes de cul. Voilà. Je me dis ça. Non, mais au moins, ils sont là, ils sont contents, ils ont vu une fellation, ils voient une fellation, ils ont la confiance.
C'est contents. Une BD qui vont se passer sous le manteau, et ils vont se le ramener à la récré.
Si se passe ça sous le manteau, c'est qu'il y a peu de choses. Mais au moins, ça va être chouette parce que cette BD, elle va traîner sur la table du salon. Et puis, pendant que les parents sont en train de machin, le gamin, il va être en train de mater le truc. Et il se dit, merde, je suis dans le salon avec mes parents en train de mater une grosse fellation, et c'est chouette, c'est rigolo. Bon, on va voir.
Ça tisse des liens.
Mais ouais, il se dit, merde, putain, je... quand tu regardes un film avec tes parents et que tout d'un coup, il se passe une scène un peu cul, tu sais pas comment tu dois réagir. Est-ce qu'il faut que tu montres à tes parents que t'es choqué, ou est-ce qu'il faut que tu commences à te masturber, enfin,
j'en sais rien. Je pense qu'il faut feindre l'indifférence.
Non, ouais, faut... je sais pas. Ouais, faut regarder la tête des parents, c'est rigolo. Mais même, après, non. Mais même, juste, il faut que tu regardes des trucs, c'est rigolo.
Donc moi j'imagine un lectorat adolescent, mais toi à ton avis, à qui ça va le plus parler ce genre d'histoire ?
Ah, pour l'instant je pense que ça parle énormément, bah, c'est comme tout, hein. Vu qu'on est un point de vue, on a le point de vue d'un garçon, je pense que ça parlera peut-être directement aux mecs qui sont un peu concernés, aux gens qui ont vécu ce genre de choses-là, ça en parlera. Donc que ce soit les petites meufs ou les petits mecs qui ont vécu un peu ce genre de trucs touche-pipi, ça leur parlera. Ça peut parler aux gosses, hein, je sais pas, ça peut parler un peu à tout le monde. Ça parlera aux vieilles personnes qui se souviendront.
C'est générationnel, c'est beau.
Ouais, non, mais après, c'est assez universel, c'est toujours la rencontre d'un homme et d'une femme, donc ça parle à tout le monde.
Et cette BD, par rapport à toi, toutes les BD que tu as pu, écrire, disons sur une échelle qui va de « Dans mes yeux » au « Melon de la colère », où est-ce que tu la situes ?
Ah, où est-ce que je la situe ? Ben, pour moi, elle ressemble assez à... Dans la manière dont je l'ai faite et machin, alors même si c'est pas un de mes albums que j'aime encore beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Mais le goût du chlore, parce que je l'avais fait quand j'étais un peu plus jeune et que j'y vois plein de défauts. Mais au moment où je le fais, dans la manière dont je l'ai faite, ça m'a fait penser un peu à ça, parce que le goût du chlore, je l'ai fait aussi pendant un été, en 3 mois. Et cette BD, je l'ai fait pendant un été, en 3-4 mois. Donc, le côté un peu, on va vite, on va à l'essentiel.
Une urgence un peu dans ta manière d'écrire.
Et on va dessiner vraiment les choses qui nous intéressent et on s'embête pas avec le superflu. Ça m'a fait penser un peu à ça. Et après, par contre, dans les thèmes, oui, c'est une espèce de melon de la colère, mais en plus nouvelle vague.
Voilà. Nouvelle vague, donc
ouais,
le cinéma.
Non, mais côté la plage, petite bourgeoise, enfin le côté un petit peu, on parle pas trop de social, voilà. Regardez cette fille comme elle est belle et que vous voudriez tous la baiser, mais que c'est moi qui la filme, tu vois. La nouvelle vague, c'est un peu ça.
C'est une inspiration pour toi, le cinéma ?
Ouais, quand même. Ouais, le cinéma beaucoup, puis là, essentiellement, ces derniers temps, quand même, je me suis fait pas mal. Surtout Claude Sauté, j'arrive pas trop, je décroche pas trop, qui me plaît vraiment beaucoup. Dans sa manière de raconter, dans sa manière d'être juste dans la vérité et tout ça, c'est très beau.
Bah, rien que dans ta manière de dessiner, en fait. Enfin, je trouve qu'il y a un côté très, très cinématographique.
Ouais, les cadrages et tout ça.
Tout
je puise beaucoup. Mon œil, c'est beaucoup exercé. Enfin, exercé. J'ai regardé pas mal de films.
Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es fier par rapport à cette BD ?
La chose dont je suis fier, comme à la fin de Paulina, tout ça, c'est. Pour l'instant, quand j'ai fait lire la BD, les gens ont compris la BD. Et ça, c'est quelque chose dont je suis assez fier, parce que c'est le plus gros challenge. C'est savoir si tout ce que tu as envie de faire passer, si les gens le comprennent bien. Et pour l'instant, les gens ont compris dans les premiers retours que j'ai. Après, ils aiment pas, c'est pas très grave. Mais au moins, ils ont compris. Ils ont compris ce que j'ai voulu raconter, ils ont compris. Et ça, c'est ça, j'en suis très content. Sinon, après, les choses dont je suis fier... c'était plus les objectifs que je m'étais fixés, ce que je te disais à propos de comment dire, est-ce que de montrer des images qui peuvent être choquantes mais d'arriver à le faire d'une manière que ce soit pas choquant. Et ben ouais, je suis assez content, quoi.
C'est intéressant parce que en fait t'es un auteur qui a envie un peu de véhiculer des messages un petit peu. Enfin, t'écris pour une raison. T'écris pas juste pour l'histoire. T'as envie de faire passer quelque chose à tes lecteurs.
Ah bah après c'est, alors je sais pas si j'espère que beaucoup d'auteurs sont comme moi, mais
je suis pas sûr.
Mais je pense que c'est intéressant de raconter quelque chose déjà. Et si on raconte quelque chose, c'est d'être quelque chose qui doit être intéressant et pertinent. Et j'essaye d'aller raconter quelque chose qui où les gens puissent se retrouver dedans et tout ça. Je sais qu'en ce moment il y a une grande mode, je sais pas, des BD Wikipédia, j'en parlais tout à l'heure, mais voilà, qui vont juste
des reportages.
Qui vont encore des reportages et tout ça, pourquoi pas, mais je sais pas, mais des espèces de BD où en gros si je lisais un article Wikipédia ou si je lisais la BD, j'ai exactement les mêmes informations et les mêmes émotions et tout ça. Donc en fait, ce genre de BD là pour moi ne sont vraiment pas intéressantes. Parce qu'on a un autre médium qui est qu'on est dans un médium artistique, et donc on doit essayer de faire passer, d'aller chercher parfois une vérité, d'aller chercher une émotion, d'aller chercher des choses qui, si on peut évoquer le souvenir à des gens, si on peut évoquer des émotions, dire ah putain, qu'est-ce qui se passe, même de faire vivre des émotions au lecteur, c'est très important. Après, au niveau des messages, moi je suis vraiment, alors je suis pas du tout politique, mais c'est peut-être. Ça me donne peut-être aussi une espèce de ça me donne peut-être aussi un discours politique, le fait de pas être politique. Donc, non mais c'est peut-être aussi de dire, je sais pas, qu'en fait c'est pour ça peut-être que j'en parle aussi à travers les personnages que le simple fait de montrer quelque chose, voilà, comme d'avoir ce genre de gamins qui ont des relations, peut-être que je retrouve une France oubliée, la France de l'inceste et de la famille, tu vois, quelque chose de très français. Mais non, c'est vrai que...
Ouais. Donc pour toi, l'art, il ne peut pas être historique, il ne peut pas...
Comment ?
Enfin, j'ai la sensation que pour toi, l'art ne peut pas être historique. Enfin, c'est un
non,
truc...
Non, je ne dis pas ça, parce qu'il y a d'extraordinaires films qui ont été faits de manière historique et tout ça. Mais je parle juste de... En fait, des BD qui ne sont que... Quand je dis Wikipédia, c'est que juste informative. C'est que on va juste vous dire, ok, alors tel connard, il est né à ce moment-là, il a rencontré cette meuf, après il a machin, et après il est mort. Voilà. En fait, on raconte l'information, mais vraiment de savoir pourquoi est-ce qu'il fait ça, même ses émotions, les sentiments, qu'est-ce qui se passe, la dramaturgie, tout ça. Et en fait, on l'oublie complètement sous prétexte de ah, j'ai lu cette BD, j'ai appris des choses. Putain, mais qui lit des BD pour apprendre des choses? Enfin, je veux dire, c'est
et pourquoi idiot. Pas? Ça peut être une manière plus ludique d'apprendre des choses que d'ouvrir.
Ça peut être une manière ludique, mais je trouve ça assez dommage. De pas exploiter un médium aussi. Si je vais apprendre des choses, j'apprends mille fois plus en lisant un article Wikipédia. J'aurais lu en un quart d'heure, 10 minutes, et j'aurais pas perdu 45 minutes à lire cet album.
Si t'apprends des choses, tu perds pas ton temps.
Si j'apprends des choses, on perd pas son temps. Mais alors, à quoi ça sert de les dessiner? Enfin, je veux dire, c'est avec le dessin, on fait aussi véhiculer des émotions. Si c'est pour ne pas en véhiculer, bref. Ce que je veux dire, c'est que le comment dire. On est dans un médium artistique et c'est intéressant de quand tu fermes un livre ou tu viens de finir un film, tu l'as pris avec toi, tu l'as avec toi et tu y réfléchis et tu vois pourquoi est-ce que tu as réagi de telle manière à telle chose, alors que quand je lis ce genre d'album ou ce genre de choses, bah en fait quand tu lis un truc un peu Wikipédia ou même du genre une histoire qui en fait quand t'as fini tu es genre ah bah c'était intéressant, c'est rigolo ce qui lui est arrivé quand même, il était malade et puis il est plus malade, donc voilà, et bah voilà, c'est pas, en fin de compte tu fais bon bah ok, j'étais un peu extérieur à tout ça et puis j'étais spectateur et c'est quand même dommage d'être spectateur.
Bah si ça peut te rassurer, moi une soeur il m'a suivi pendant plusieurs jours et j'ai beaucoup cogité là-dessus, chouette. Donc j'invite les lectrices à aller dans les librairies le 3 mai prochain.
Ouais.
Pour aller jeter un petit coup d'œil à une sœur.
Okay.
Merci beaucoup, Bastien.
Bah, merci,
à très bientôt.
Merci à vous. Ça marche.